With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Louis.
Le fait de travailler à deux, c'est que tout peut paraître plus intense parfois. C'est-à-dire que dans les moments d'exaltation et de partage, c'est génial parce que tout est doublé, voire quadruplé, parce qu'on est vraiment dans cette émulsion et dans ce partage. Et après, à d'autres moments, il peut y avoir aussi cet effort de devoir s'acclimater à l'autre. Et en même temps, c'est ça qui est bien en étant deux, c'est que quand il y en a une qui rame, l'autre, elle tient la barque.
Par rapport à ce miroir entre l'amitié très forte et le statut professionnel, il y a toujours cette grande question de la communication, apprendre à communiquer sans blesser l'autre, ou en tout cas ne pas être dans une peur de perdre son ami si à un moment donné on a des choses à rectifier d'un point de vue professionnel.
Elles m'ont toujours fascinée, les amitiés fécondes, celles dont ne sort pas seulement du bonheur, mais aussi un objet. Il peut s'agir d'un livre, d'une médaille olympique, d'un tableau. J'ai toujours dévolu à l'amitié une importance immense. Aussi loin que je me souvienne, l'idée m'émerveillait de me réveiller le matin pour passer du temps avec une personne que je me serais mise à aimer pour aucune raison. Disons parce que c'était elle, et parce que c'était moi, et avec qui je partagerais en plus la possibilité d'un rêve. Être de ces amis qui ne s'aiment pas que sur leur temps libre, mais qui ensemble fabriquent, travaillent. Quelle est la probabilité que ça vous arrive ? Vous avez grandi séparément, vous avez une géographie singulière, des mondes intérieurs distincts, des histoires d'amour à vous qui impliquent d'autres êtres, mais vous partagez, en plus de la tendresse, des envies communes qui peuvent se déployer chaque jour. Quand cela arrive, c'est une sorte de petit miracle. Louis Média s'est construit sur un de ceux-là. Aujourd'hui dans Fracas, un autre de ces miracles qui continue de m'émerveiller, l'histoire d'Elsa et Johanna, artistes exposés à la Maison européenne de la photographie jusqu'au 6 novembre avec leur dernier projet, The Timeless Story of Murmurland, dont Louis Média est partenaire. Elles sont au micro de Capucine Rouault.
Je grandis à Bayonne et mes parents qui sont architectes me baignent dans un imaginaire très créatif. Mon père lit beaucoup de livres, ma mère fait des petites maisons, elle fait des maquettes, elle coud. Et je les vois en fait créer de manière très naturelle quand ils ont du temps libre. Et donc c'est quelque chose qui m'inspire et je suis complètement imprégnée de ça.
Je nais à Paris et je passe mes 3 premières années de vie aux Antilles, en Martinique. Puis vers 3 ans, j'emménage en campagne en Bretagne, où je passe toute mon adolescence avec ma famille là-bas. Mon père est expert comptable et ma mère est artiste peintre. Et donc, je grandis dans une famille d'artistes qui nous pousse beaucoup à nous exprimer. On est très dans la musique, dans l'art, dans la peinture. Ma mère, quand on est petit, nous pousse à créer beaucoup de choses, fait beaucoup d'ateliers avec nous. Donc, l'art est comme une évidence pour moi. En tout cas, j'ai cette chance de grandir avec cette liberté d'expression. Et en tout cas, mes parents me poussent à être qui je veux être.
C'est à mes 6 ans que je suis inscrite par ma mère à l'école des beaux-arts de Bayonne. Et j'apprends le pastel. Et c'est quelque chose qui me marque parce que c'est à ce moment-là que je réalise que j'aime vraiment m'exprimer à travers le dessin, que c'est un vrai plaisir. Et c'est vrai que je suis complètement immergée dans la création quand j'ai du temps libre. Enfin, évidemment, je le passe avec des amis et je fais plein d'autres choses. Mais c'est vrai que j'expérimente aussi beaucoup avec mes amis, notamment avec une copine. On a un blog, on publie des photos. Et c'est là que je commence à me mettre en scène avec elle. On fait des photos noir et blanc, on publie des poèmes avec. Et on crée comme on a envie. Et ça nous permet, je crois, de nous livrer. Le blog devient une forme de cadre, mais comme c'est nous qui nous le donnons, c'est une manière de s'exprimer qui est en dehors de ce qu'on montre à l'école, en dehors de ce qu'on montre à nos parents. C'est un peu notre jardin secret de la création.
À 13 ans, je suis en vacances d'été avec ma meilleure amie, mon amie d'enfance. Et on s'ennuie terriblement, comme deux adolescentes au mois d'août, et on décide, sur un coup de tête, de prendre l'appareil photo numérique de ma mère et de commencer à se prendre en photo de manière très naturelle, dans mon jardin, dans ma chambre, etc. Et très vite, ça devient une passion que je partage avec une autre amie. Donc on devient un trio de photographes. Et on passe toutes nos vacances d'été, toutes nos vacances dans l'année, tous nos week-ends à faire de la photographie. Et notamment, on se met en scène. Donc on crée un univers assez riche, assez romantique, assez nostalgique, avec beaucoup de références musicales, littéraires, poétiques. Et pendant l'espace de 4 ans, on crée et on développe un monde qu'on publie très régulièrement sur un skyblog. Avec ce skyblog, on est anonyme, donc on a un pseudo, ce qui nous permet quelque part vraiment de faire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut et de se sentir libre de le faire sans avoir peur nécessairement du regard des autres ou voilà.
Lorsque je suis au lycée, je commence à me poser la question de qu'est-ce que je vais faire après. Et je suis très intéressée par et très curieuse de découvrir l'école des arts décoratifs de Paris. Ma mère me montre des articles, on les lit ensemble. C'est une école qui m'attire énormément parce qu'elle propose plein de secteurs créatifs différents. Et aussi parce qu'elle répertorie des grands artistes et ça me fait rêver. Le plus simple, c'est de faire une première année dans une école des beaux-arts qui est, on va dire, moins difficile d'accès, qui se trouve en banlieue parisienne. Et pendant cette année-là, je peux me préparer pour le concours des arts déco l'année d'après. Finalement, je laisse peu à peu la peinture pour la photographie. Les cours de sculpture ou d'expérimentation autres me plaisent moins que ça. Et c'est vraiment la photo qui me parle à ce moment-là.
J'ai les Beaux-Arts de Paris, je rentre aux Beaux-Arts à 18 ans. Et là, étrangement, je cesse complètement de me mettre en scène. J'ai besoin de trouver mon identité personnelle dans la création. J'ai l'impression qu'il faut que je coupe un peu avec mes débuts, l'essence de ma passion. Et donc, pendant 4 ans, je développe un travail assez différent de ce que je faisais quand j'étais jeune.
Pendant cette année de Beaux-Arts, je me mets du coup à constituer mon dossier pour le concours des arts décoratifs. Je le fais à 1000%. Ma mère m'aide à ce moment-là parce que c'est quand même... On nous demande des choses assez compliquées en très peu de temps. Une copine me parle de l'école de la Cambre à Bruxelles. Je tente le concours de la Cambre, que je réussis du premier coup. Et à la Cambre, le secteur que je choisis qui me parle le plus, c'est le secteur photographie et vidéo. Je continue à expérimenter plusieurs sujets, mais aussi à me mettre en scène. Et je m'intéresse aux codes de beauté et aux stéréotypes de beauté qu'on retrouve dans les concours de beauté féminins. Et aidée d'une copine, je me mets en scène en studio et je m'amuse vraiment à jouer des jeunes femmes assez caricaturales, très souriantes, avec donc j'utilise des perruques, des couronnes à strass, des robes assez ringardes. Et ça me permet de vraiment m'amuser sur l'autoportrait. Et ce sujet devient mon sujet de diplôme de la Cambre. Je me sers de ce travail pour constituer à nouveau un dossier pour rentrer toujours à l'école des arts décoratifs. Et je suis prise aux arts décoratifs en deuxième année avec ce projet.
En quatrième année aux Beaux-Arts, on a la possibilité de partir 6 mois en échange scolaire dans une grande école dans le monde. Donc, assez naturellement, je veux partir à la St. Martin's School de Londres. Et en lisant beaucoup de dossiers, je tombe sur un dossier qui concerne la School of Visual Art de New York. J'ai des papillons dans le ventre et je me rends compte à ce moment-là que, en fin de compte, j'ai envie de partir là-bas. Je pense que je n'ose pas trop me l'avouer parce que ça me fait peur. Je suis jamais partie si loin. J'ai pas non plus envie de m'éloigner trop de mon copain de l'époque. Mais en même temps, je sens que c'est mon chemin. Je sens qu'il faut que je le présente. Je réussis à obtenir la bourse pour partir à New York très rapidement. Ce rêve devient réalité.
Durant ma troisième année, je me fixe l'objectif de partir aux États-Unis avec un échange que propose l'école. Et finalement, j'y arrive, j'ai un bon classement, ce qui me permet d'être prise dans l'école que je souhaite, qui est la School of Visual Arts à Manhattan, et j'arrive à avoir une bourse. Donc je suis super contente parce que je sais que je vais pouvoir réaliser un de mes rêves.
J'ai 23 ans, on est en janvier 2014, c'est l'hiver, il fait très froid. Je pars avec une énorme valise. Voilà, mes amis m'accompagnent à l'aéroport. J'arrive de nuit, donc à Brooklyn. C'est complètement dingue parce que tout est nouveau. Les odeurs, les bruits, c'est très bruyant. Et en même temps, il y a une vraie musicalité dans cette ville. Les rues sont très différentes. Et en même temps, il y a beaucoup de neige. Il fait extrêmement froid. Et j'adore ça. J'adore ça.
Je crois qu'il fait super beau et froid. En tout cas, en janvier à New York, il fait très très froid. On est sur des moins 20 degrés. Mais c'est un froid qui rend vivant. J'arrive devant ce building de la SVA qui est consacré à la photo, donc ça représente 7 étages juste pour faire de la photo. Pour moi, c'est juste un rêve. Durant ce premier rendez-vous à la SVA avec tous les élèves donc étrangers qui passeront quelques mois dans l'école, moi, je suis déjà assise, je crois que je suis au fond de la classe, et je vois Johanna dans l'embrasure de la porte, et je me dis, elle est française. Déjà à son attitude, à la façon dont elle est habillée, je crois qu'elle a un chapeau et une veste en cuir rembourrée. Enfin, je sais qu'à son style, potentiellement, elle peut venir de France et de Paris.
On est 3 étudiants français en échange dans cette école, un garçon et une fille. Et je vois une blonde avec une sorte de perfecto en cuir noir, les cheveux au carré, très blond, avec une sorte de frange, les yeux assez plissés. J'ai la certitude que c'est peut-être une fille de Suède ou de Norvège. À la fin de la présentation, assez naturellement, je parle avec le garçon français et cette jeune fille vient nous voir aussi et on se met à parler tous les trois et je me rends compte qu'en fait, elle est française et donc il s'agit d'Elsa. On décide de s'entraider, de regarder ensemble les cours et de naturellement, on prend des cours ensemble avec Elsa, notamment un cours de photo en studio. On va dans un café qui s'appelle le Sunburns et on échange sur, voilà, sur nous, sur notre travail. Et surtout, on échange sur nos goûts musicaux parce que il y a en fait beaucoup de soirées à New York dans lesquelles on a très envie d'aller et on se rend compte qu'on a envie d'aller dans les mêmes soirées. Et comme on est quand même un peu à New York pour s'éclater, faire la fête, rencontrer du monde et vivre, on décide peut-être le week-end qui suit d'aller dans un concert électro ensemble. Et là, tout commence puisque on est toutes les deux seules, on échange beaucoup et en fait, tout de suite, ça matche, quoi.
On choisit chacune nos cours et on en prend 2 en commun. Et ça nous permet de faire plus ample connaissance quand on a cours ensemble, de s'entraider, de rigoler quand les exercices qu'on doit faire sont assez lassants et qu'on a envie de s'entraider et de s'amuser. Et en dehors de l'école, on est très vite amis puisque chacune, on va se présenter des amis. Et en fait, rapidement, on a une bande d'amis d'une quinzaine de personnes. Et c'est comme ça que tous les week-ends, on va se retrouver donc avec plein d'autres gens à faire la fête, à visiter New York, Brooklyn, à se balader, faire du shopping. En discutant, on se rend compte qu'en fait, on est voisines à Paris. On était voisines, mais sans le savoir. Que Johanna prenait tous les matins le bus 27 pour aller aux Beaux-Arts et que moi, je prenais le même bus pour descendre tous les matins aux Arts Déco. Et on s'est rendu compte aussi que traverser l'océan pour se rencontrer alors qu'on était voisines, c'est quand même rigolo.
Elsa et moi, on a 2 caractères très différents. Et en même temps, on a, je dirais, la même joie de vivre. On a la même vision du monde. On a un peu les mêmes envies à ce moment-là, se résument à des choses simples. On aime manger les mêmes choses. On aime la même musique. On a naturellement envie de découvrir la ville de la même manière. Elsa, c'est quelqu'un que j'identifie de prime abord comme quelqu'un qui est un peu plus distant que moi, mais qui, lorsqu'on commence à la connaître, est empreinte d'une très grande douceur. Quand elle commence à sourire, c'est vraiment un rayon de soleil. Et c'est quelqu'un que j'aime profondément, de manière instantanée, je crois. Il y a vraiment cette complémentarité qui s'instaure, parce que justement, elle n'est pas moi. Et en même temps, son énergie me calme. On rigole énormément ensemble. On a très vite vraiment le même humour, ce qui est assez rare. Et donc, c'est un plaisir fou pour moi de commencer mon échange dans cette ville magnifique avec quelqu'un avec qui je peux rire autant, quoi.
Johanna me montre son travail qu'elle avait développé aux Beaux-Arts. Et visuellement, je trouve ça très fort, très beau. Et j'ai tout de suite ressenti de son travail qu'il était assumé et assez corsé. Et ça m'a beaucoup plu et je me suis dit qu'elle avait une personnalité photographique assez forte.
Très naturellement, pour se donner du courage et pour s'amuser davantage, on décide de s'entraider sur nos projets et sur les devoirs qu'on doit rendre, puisqu'on a beaucoup de devoirs à rendre régulièrement toutes les semaines. Et donc, naturellement, on se photographie l'une l'autre, c'est plus simple. Aussi, je pense, parce que voilà, on parle en français, c'est très facile de communiquer. On a aussi des goûts similaires, donc ça devient vraiment un jeu. Je la prends en photo pour un devoir que j'ai dans un cours de nature morte. Je l'aide sur des séries d'éditos qu'elle doit réaliser pour son cours de mode, etc. Et donc, naturellement, on se rend compte qu'entre nous, à la fois, il y a une grande fluidité dans la création, ça nous donne beaucoup de courage, et ça rend aussi l'exercice extrêmement jouissif et agréable. Et j'ai l'impression que, très naturellement, on se dit pourquoi on s'en priverait, quoi.
On est en juin 2014 et la fin de l'échange approche à grands pas. On part avec une copine et Johanna toutes les trois en Californie pendant 2 semaines pour se faire un petit voyage sympa avant de rentrer, ce qui est un peu le bonbon avant la tristesse du départ. On est hébergé dans une maison à Los Angeles où la nana qui nous prête une chambre, elle est assez étrange et sa personnalité nous marque beaucoup. Et on est imprégné d'une ambiance là-bas qui nous inspire. Et après avoir acheté des robes dans une friperie, naturellement, sans trop réfléchir, on commence à se prendre en photo l'une et l'autre dans le jardin, dans le salon. Et c'est à ce moment-là qu'on fait notre premier autoportrait. Une fois l'échange terminé et une fois rentrée en France, là, c'est un peu la douche froide. Moi, je suis super triste d'être partie. Et en fait, j'ai qu'une envie, c'est de repartir à New York.
C'est une nouvelle phase qui s'offre à nous, puisque, comme on se l'était dit, en fait, elle vit dans le même quartier que moi. Donc, en fait, on devient en quelque sorte voisine. Donc, on continue, en fait, le rêve américain en le prolongeant donc à Paris. On découvre notre relation à Paris. On a beaucoup d'amis en commun, puisqu'elle est aux Arts décoratifs de Paris. Moi, j'ai beaucoup d'amis aux Arts décoratifs de Paris. C'est comme si on reconstituait le puzzle de notre rencontre à travers toute une dimension plus organique de tous les gens qu'on connaît, toutes les choses qu'on aime faire, les endroits où on aime aller, les cafés qu'on aime fréquenter dans le quartier, les musées qu'on préfère, etc.
On se retrouve toutes les deux en vacances chez mes parents au Pays Basque. Et entre vacances et expérimentation photographique, finalement, on continue ce qu'on avait entamé à Los Angeles toutes les deux. Et on fait des mises en scène à deux de plein de personnages différents, un peu comme un jeu théâtral, sans que ça soit trop sérieux. Et en même temps, on a conscience que ce qu'on est en train de faire est intéressant et que c'est aussi quelque chose qu'on ne pourrait pas faire là l'une sans l'autre, puisque à deux, on fait des personnages qu'on ne ferait pas toute seule. On se sert de vêtements qu'on a soit achetés dans des friperies pendant les vacances et qu'on prend dans nos valises, ou alors on va dans les tiroirs de ma maison et on utilise des vêtements qu'on a sous la main, des vieilles chemises que mon père mettait plus jeune, ou des vêtements de ma mère.
Donc la toute première mise en scène qu'on fait est très nulle. On s'en rend compte et en même temps, en voyant cette image qui est une image un peu absurde où... moi, je porte une perruque rouge, Elsa, elle est torse nu, seins nu. On est à une table et il y a du jambon sur la table. Enfin bon, c'est complètement absurde, cette mise en scène. Mais en voyant cette image, on se dit, bon, c'est nul, mais on peut continuer à se mettre en scène et peut-être qu'on peut réussir à faire quelque chose de bien et d'intéressant. Donc, on baisse pas les bras et on joue deux autres personnages où je joue une sorte de jeune femme avec une queue haute et des grosses boucles d'oreilles, un peu un archétype. Et elle joue en fait un jeune homme qui a une sorte de moto, qui est la moto de son père. Et on se prend en photo sur la moto, elle et moi, comme un couple d'ados, quoi. Et sans trop savoir ce qu'on est en train de faire, en tout cas, il y a la première pierre de notre histoire qui se pose à ce moment-là. Donc, dans les 3 premiers mois de la rentrée scolaire, moi aux Beaux-Arts et elle aux Arts Déco, on arrive avec un peu les pieds dans le plat. Et en fait, on avait énormément produit en très peu de temps. Et on arrive avec une cinquantaine de petites photos imprimées format carte postale avec tout un tas de personnages dans tout un tas d'environnements.
on fait la demande assez originale de finalement proposer un double diplôme inter-école, parce qu'on a très envie de retourner à New York, que les photos qu'on a réalisées ensemble l'été sont bien reçues par certains professeurs respectifs, et on a envie de continuer. On décide de repartir à New York pour continuer ce projet, qui devient de plus en plus sérieux, qui s'intitule « A Couple of Them ». L'idée, c'est d'incarner une multitude de personnages relativement jeunes, qui ne sont pas à l'opposé de ce que nous sommes, donc qu'on nous reconnaisse physiquement, et que finalement tous ces personnages incarnés soient relativement banals et constituent une foule d'anonymes lambda. Et c'est vraiment en retournant à New York qu'on se permet des performances de personnages qu'on n'avait pas du tout expérimentées dans le Sud. Et on se laisse aussi beaucoup imprégner par les localités de Brooklyn, parce qu'il y a plein de quartiers différents, avec un quartier portoricain, un quartier mexicain, un quartier russe. Enfin, plein de quartiers de différentes nationalités qui nous inspirent énormément. Et c'est en nous imprégnant de ces différentes atmosphères à Brooklyn qu'on prend déjà énormément de plaisir à faire ces performances-là, mais qu'on touche quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas pu toucher à Paris, puisque là, on est submergé par la nouveauté et la découverte.
Et là commence vraiment notre travail de performance, c'est-à-dire qu'on rentre dans la peau de personnages qu'on invente et qu'on incarne, mais on se fond vraiment dans la population qu'on a pu observer pendant 6 mois l'année d'avant. Donc, on commence à expérimenter la ville sous un prisme plus anthropologique, plus théâtral. Et là, je pense qu'il y a vraiment cette eureka, en fait, qui se passe entre nous quand on est dans ces performances, puisque là, on fait pour la première fois l'expérience humaine qu'on recherchait, dont on parlait pendant l'été. Ce qui est assez grisant, à la fois dans ce travail de performance, dans la réalisation des images, dans le fait de voyager, c'est aussi la rapidité à laquelle on se comprend, Elsa et moi. C'est-à-dire, on a à la fois besoin de se dire très peu de choses pour comprendre où l'autre veut en venir lorsqu'on parle d'une idée de personnage. Et ça, c'est vraiment empreint d'une vraie magie, parce que c'est assez rare de rencontrer quelqu'un qui a, pour ainsi dire, les mêmes lunettes que nous, à travers duquel on regarde le monde. Ce qui nous fait gagner énormément de temps. Quand on est dans nos phases créatives, on est complètement plongé dans une forme de transe où on croit profondément à ce qu'on est en train de faire.
On apprend aussi à se connaître en dehors de notre amitié à travers ce travail de performance. Et c'est vrai que tout de suite, on apprend à ne pas avoir de jugement pour l'autre. C'est-à-dire que quand une de nous deux joue un personnage, on dit que ça marche ou que ça marche pas. Mais si ça ne marche pas, on n'est pas du tout dans un jugement personnel. C'est en fait un langage entre nous se crée, et on se comprend tout à fait quand on parle d'un personnage qui marche ou qui ne marche pas. Et on arrive, je crois, à dissocier notre relation dans la performance et notre relation dans la vie plus amicale.
Donc en 2015, on passe enfin notre oral tant attendu donc du diplôme de dernière année. Et c'est vrai qu'en voyant ces centaines de portraits grand format accrochés au mur, quelque part, il y a une concrétisation vraiment profonde qui se joue à ce moment-là, puisque c'est la première fois qu'on voit de nos yeux ce qu'on a imaginé pendant un an. On est félicité par les membres du jury, ce qui est pour nous le meilleur des compliments, puisqu'on avait cette envie de proposer une œuvre sensible et pas seulement plastique. En sortant du diplôme, on a cette chance d'avoir tout de suite des opportunités d'exposer le projet dans différentes institutions. Et c'est vrai que ces opportunités d'exposer scellent en quelque sorte l'existence de notre duo, puisque au regard d'un public, on s'assume pour la première fois vraiment en tant que Elsa et Joanne.
Tout de suite, il y a une visibilité, il y a un public qui est assez réceptif à notre projet, donc A Couple of Them. Et il n'y a pas vraiment de temps mort. C'est une vraie continuité de notre diplôme jusqu'à la vie professionnelle. À ce moment-là, on se pose aussi la question du nom qu'on veut donner au duo qui est en train de naître. Enfin, au duo, on va dire, plus officiel. Et le plus simple pour nous à ce moment-là, c'est de garder nos prénoms, parce que c'est fluide et que c'est simple et c'est la réalité. Le fait de travailler à deux, c'est que tout peut paraître plus intense parfois. C'est-à-dire que dans les moments d'exaltation et de partage, c'est génial parce que tout est doublé, voire quadruplé, parce qu'on est vraiment dans cette émulsion et dans ce partage. Et après, à d'autres moments, il peut y avoir aussi cet effort de devoir s'acclimater à l'autre. Et en même temps, c'est ça qui est bien en étant deux, c'est que quand il y en a une qui rame, l'autre, elle tient la barque.
On se met dans un rythme de travail qui fait que du lundi au vendredi, on travaille. On travaille pour y arriver, on travaille pour ne pas passer des journées à faire autre chose et à dormir. On travaille vraiment de manière très sérieuse parce qu'on a toutes les deux très envie d'y arriver et de gagner notre vie en tant qu'artiste, en faisant ce qu'on aime, et aussi de diffuser cette œuvre qui pour nous est tellement importante. Et quelque part, on se dit aussi qu'il y a un message dans cette œuvre qu'on a envie de déployer.
Quand on crée des personnages et qu'on les joue pour nos mises en scène et les autoportraits qu'on réalise à deux, on n'est jamais dans la retranscription linéaire de quelqu'un qu'on aurait vu dans la rue ou de quelqu'un qu'on aurait vu dans un film. C'est un mélange de plein de choses et de plein de ressentis. Et ça nous arrive parfois de nous inspirer de personnalités qu'on connaît, de membres de notre famille ou de caractères de gens qu'on a pu croiser dans nos vies respectives. Et finalement, ces personnages que nous jouons, pour nous, l'intérêt, c'est qu'ils interpellent à la fois des impressions de déjà-vu qui peuvent appartenir à l'imaginaire collectif, mais aussi à la mémoire personnelle de chacun. Parfois, c'est un mélange d'inspiration qui peut donner vie à un personnage, et j'en ai un en tête. C'est un jeune homme que j'ai joué pour un projet qu'on a réalisé aux îles Canaries. Et en parlant avec Johanna, on a tout de suite eu l'idée de créer un jeune homme qui était un peu un mélange d'une figure à la James Dean et d'un casseur de pierre des routes des années 50 aux États-Unis. Donc finalement, deux figures très différentes, mais le mélange des deux nous a énormément inspirés et a donné vie à mon personnage. Par moments, dans le travail, il y a des traits de caractère qui ressortent, qu'on a ou qu'on n'a pas. Et par moments, j'ai pu tirer des traits de caractère que Johanna avait pour m'enrichir et pour apprendre des choses que je n'avais pas, notamment le sens de la finition, le sens du détail, aller au bout des choses. Ce sont des aspects du travail que j'avais moins avant de rencontrer Johanna et que j'ai de plus en plus. Et je sais que c'est une vraie forme d'apprentissage.
On n'est pas seulement photographe. Quand on part comme ça en voyage ou en résidence, on est photographe, mais aussi on est modèle, on est celle qui devons nous coiffer, nous mettre nos perruques, nous maquiller, trouver les vêtements. Il y a tout un tas en fait d'aspects créatifs qui rentrent dans ce langage, qui ne sont pas seulement de la photographie. Et donc, étant donné que lors de ces shootings performances, on travaille sans assistant, il y a cette nécessité, en fait, que l'une et l'autre sachent faire exactement la même chose. Ce qui fait qu'on a réussi à développer comme ça une forme de capacité miroir où on est toutes les deux capables de faire exactement les mêmes choses, que ce soit dans la réalisation de la photographie, mais aussi dans l'editing. On fait du montage toute seule, on fait de l'étalonnage toute seule. Donc, il fallait assez vite qu'on ait les mêmes capacités et qu'il y ait cet équilibre, en fait, total.
À travers toutes les aventures et les étapes de travail et les étapes relationnelles qu'on a eues, parfois l'amitié s'est mélangée à la vie professionnelle. Il y a eu une vraie évolution entre New York et aujourd'hui, où maintenant, je crois, on prend les choses avec plus de recul, plus de maturité, parce qu'aussi on a vraiment appris à se connaître dans l'amitié et dans le travail.
Le fait de travailler avec une amie très proche induit plusieurs problématiques. Il n'y a plus de différence à un moment donné entre la vie personnelle et la vie professionnelle, puisqu'on a les mêmes amis, on connaît mutuellement nos familles, ce qui fait que on travaille ensemble, on se voit aussi pour des moments de vie joyeux, etc. Ce qui peut créer en fait une forme d'étouffement, ou ce qui fait qu'on a beaucoup moins cette limite. C'est aussi quelque chose qu'on a compris au fur et à mesure des années, de vraiment séquencer davantage les moments où on est dans une vraie forme de travail et les moments où on est dans un moment d'amitié, où là on peut se confier, là on peut rentrer dans plus de profondeur émotionnelle. Il y a une sorte de limite qui est tellement floue. Et ça, c'est une des premières choses à comprendre, je pense. C'est vraiment de ne pas avoir peur de différencier les choses parce que c'est plus sain comme ça. Il y a des caps à passer. Et en même temps, c'est une aventure qui est extrêmement riche parce que ça nous fait vraiment grandir. Et en tout cas, quand on réussit à passer les étapes, c'est vraiment un bonheur infini de se dire qu'on y est arrivé et qu'on a pris beaucoup de maturité.
Pour moi, notre rencontre, c'est un vrai rendez-vous. Un rendez-vous amical, artistique, mais aussi sur un apprentissage de vie personnelle. Et peut-être qu'on devait prendre un avion, traverser l'océan pour se rencontrer à New York, que c'était une forme de destinée. Rétrospectivement, cette relation et cette aventure avec Johanna en tant qu'amie et en tant que duo de créatrice, c'est comme un voyage initiatique où l'effet de miroir qu'on a pu avoir l'une envers l'autre nous a fait grandir et nous a fait évoluer dans notre création.
Quand je vois tout ce qui s'est passé depuis cet échange à New York, ma rencontre avec Elsa, toutes les choses qu'on a accomplies ensemble, moi, je crois beaucoup aux synchronicités et je suis persuadée que c'était en partie voilà, notre destin de se rencontrer, dans cette ville-là. Et ma vie aurait été totalement différente si j'étais partie à la St. Martin School, par exemple, et que j'en serais clairement pas là, puisque à la base, je n'avais pas du tout comme projet de travailler dans un duo d'artistes. Elle est devenue un peu comme ma sœur. Enfin, il y a une dimension très familiale qui s'est instaurée entre nous, qui fait que il y a à la fois une osmose, mais il y a aussi une grande maturité du lien qui s'est instauré. Et ça, c'est une grande victoire d'avoir réussi à préserver ce lien malgré tout, malgré le fait de passer de 23 ans à plus de 30 ans et que c'est justement des années qui broient et qui bouge énormément de choses d'un point de vue intime. Et ça me prouve, en tout cas personnellement, qu'on tient toutes les deux énormément à ce qu'on a. Et pour moi, c'est le plus important.
Vous venez d'écouter l'histoire d'Elsa et Johanna, artistes exposées à la Maison européenne de la photographie jusqu'au 6 novembre, avec leur dernier projet, The Timeless Story of Murmurland. Si vous aimez Fracas, vous pouvez aussi découvrir les autres podcasts de Louis, Passage, notre podcast d'histoire vraie, Le Book Club et Fête des Gosses, notre petit dernier. À très vite.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.